Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Et oui, la troisième fois cette semaine pour une nouvelle preview que de course qui arrive. Et cette fois-ci, c'est la course italienne, la course des deux mers. Tirreno Adriatico, comment ne pas présenter cette course World Tour au plateau toujours alléchant. Avec moi ce soir pour vous présenter la course italienne, j'ai l'honneur d'accueillir mesdames et messieurs, attention, il est tout excité après avoir vu le week-end dromardéchois de Juan Ayuso, il se met déjà à rêver au renversement du Freldanois par le jeune espagnol. Salut Titien, comment vas-tu ?
Salut les copains, salut tout le monde. Bah écoute, ouais, ça va super bien. Effectivement, c'était un beau week-end et effectivement, il va y avoir des choses à dire parce que Juan Ayuso, vous allez voir, il va démonter Jonas Vingegaard sur ce Tirreno Adriatico. Non, j'y crois pas une seule seconde, mais non, ça va être une belle course entre un nouveau championnat du monde des sprinteurs après celui de l'UAE et puis des belles courses pour les grimpeurs. On va être servi, donc écoute. Voilà, deux belles courses avec Paris-Nice dont on a déjà fait la preview qui vont être en même temps. J'ai hâte de suivre ça.
Pour nous accompagner aujourd'hui, Titien, on sait tous qu'il aurait aimé voir Romain Bardet à la fois sur Paris-Nice et sur Tirreno. Et sur Tirreno, mais non, ton idole n'est pas dédoublable. Il va falloir accepter de ne pas l'encourager deux fois par jour la semaine prochaine. Salut Poppy, comment vas-tu ?
Salut à tous. Ça va un peu moins bien du coup. Non, mais ça va super évidemment, oui, mon chouchou là, mais il y a d'autres très beaux coureurs à voir et on en reparlera après, notamment un coureur dont j'ai parlé il y a quelques mois, quelques semaines, mais on en reparlera un petit peu plus tard.
Avant de passer dans le dur de l'émission, un petit instant promo pour vous rappeler de vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous nous écoutez en podcast aussi, vous pouvez nous soutenir. Un petit like également. Allez faire un tour sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook. Tous les liens sont dans la description pour voir les super articles de Matt et Simon qui nous régalent très régulièrement. Ils ont quand même une grosse productivité, des super articles d'actu, des articles historiques. On a eu un super papier sur le cyclisme russe récemment. Voilà, on apprend aussi plein de choses, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Messieurs, forcément, avant de commencer avec la présentation du parcours, un petit quiz.
Si vous êtes d'accord. Toujours. Bah,
je vois que là. Est-ce que nous avons le choix ?
Ouais, non, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est quiz. Voilà. Je sais même pas pourquoi je pose la question. Ah, t'as raison.
Après celui de Paris-Nice, il y a quelques jours où c'était les réponses au pif. J'espère que là, on aura un peu plus de pif, justement.
J'ai compris qu'il fallait remonter peut-être un petit peu moins loin aussi dans les années. Enfin, on va voir. Alors après, c'est aussi la culture générale cycliste. Hein. Voilà, ça ne se refait pas. Messieurs, première question. Combien de Français ont gagné Tirreno Adriatico ?
Deux.
Non.
Zéro.
Oui, zéro. Oh. Zéro. Zéro pointé. Alors, deuxième question. Combien de Français ont fait podium sur Tirreno Adriatico ?
Zéro ?
Non, quand même, il y en a eu.
Trois ?
Ouais, trois. Joli.
Ouh. Bien joué.
Est-ce que t'as au moins un nom ? Je pense que, tant que, à mon avis, il y en a deux que t'auras pas, mais un, tu le connais.
Est-ce que je dis... Anquetil ?
Non, pas si vieux.
Ok.
Tu regardais le vélo, à l'époque, où il a fait podium.
C'est un truc récent ?
Ouais, celui-là, oui.
Attends, Romain Bardet, il a jamais fait podium, non ?
Non.
Christophe Moreau,
c'est Pinot.
Ouais, Pinot en 2017. Exact. Il fait troisième. Et les deux qui ont fait podium avant lui, c'était Gilles de Lyon en 1990 et Charly Mottet en 1989.
Wow.
Ah, la suite, deux
Voilà.
podiums d'affilée.
Voilà. Donc ça remonte un petit peu plus loin, mais Pinot, c'est en 2017. Donc
C'est
là,
vrai,
vous n'êtes pas
c'est vrai.
excusable. Voilà.
Désolé, désolé.
On enchaîne sur la question suivante, qui est toujours en lien avec la question précédente. Magnifique. Quel est le point commun entre ces trois coureurs français? Thibaut Pinot, Gilles de Lyon et Charly Mottet, à part avoir fait podium à Tirreno, hein, bien évidemment.
Bah, ils sont français.
Voilà, oui, je vous laisse encore.
font du vélo.
Ils ont gagné une étape sur Tirreno?
Alors, c'est pas ça, mais c'est dans l'idée. Ils ont gagné une course en commun.
Ils ont gagné le Tour de Lombardie?
Ouais, joli.
Bien
Ils ont
joué.
gagné tous les trois le Tour de Lombardie. Alors au début, j'ai cru que c'était la même année, mais en fait, non. Il n'y a que De Lyon qui l'a gagné en 90. Mottet l'avait gagné avant, en 88, et Pinot en 2018. Eh bah, dis donc, Poppy, tu mènes
Bah,
2-1?
qu'est-ce qui se passe?
2-1.
Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il y a une coupure de
Alors.
l'UCI qui est pas loin de ma porte, je
Ah
crois.
ouais. qui est le dernier Italien vainqueur de Tirreno Adriatico?
Nibali?
Ouais,
En
Nibali. Et ça commence.
Ça ne pouvait être que lui.
2013, je crois.
Ouais, joli, 2013. Et en voyant ça, je me suis dit, ah ouais, ça fait quand même un moment qu'il n'y a pas un Italien qui s'est imposé sur cette course. Et ben magnifique, de partout. La question finale pour
Ah
vous
là là.
départager, messieurs. Et là, attention, pareil, une culture cycliste Tirreno est à sortir. Qui est le seul Danois à avoir gagné Tirreno Adriatico?
Rasmussen?
Non.
Oh là là, bah du coup, Rhys?
Non.
Un Danois qui a gagné
Fuglsang?
Tirreno-Adriatico.
Non plus.
Non, non.
Ah, c'est pas récent alors. Hein.
Bah non, c'est un petit peu plus vieux.
Oh là là là
C'est
là.
ouais, la génération de Rhys, quoi.
Putain, il y a qui en danois là, allez, non, je sais plus.
Il a gagné un tour des Flandres, ce monsieur.
Danois. Bo Hamburger?
Non.
Je sais plus
C'était
c'est
plus
qui.
un coureur de classique qu'un coureur de tour, d'ailleurs.
Voilà. Là. Là. Non, mais il n'était pas danois. Sorensen?
Si, ouais,
Ah,
Rolf
Rolf
Sorensen.
Sorensen, ouais.
Ouais.
Ah.
Rolf Sorensen,
Mais ça
un
c'était quand
très
Tirreno,
brillant.
c'était encore une course de classic man,
Ouais.
de puncher, quoi, ouais.
Voilà, c'est sûr. C'est pas
Ouais.
le Tirreno qu'on a aujourd'hui.
Ouais,
Mais c'est
ouais,
pas pour rien que c'est Roger De Vlaminck, le recordman de victoire. Hein.
ouais. Ouais, non,
C'est parce
mais.
que.
Je me souviens, là, quand on était petit, là, c'était des frérets et tout qui gagnaient l'épreuve, des Bettini, des. C'était.
Il l'a gagné deux, trois fois, je
Ouais.
crois.
Ouais, non, c'était pas la même course.
Ouais, non, non, c'est sûr que c'était pas la même course et en fait c'était vraiment à la base Tirreno Adriatico, c'était pour préparer Milan-San Remo, donc il fallait attirer les vainqueurs de classiques habituellement, enfin les gars qui chassaient les classiques, et puis au fur et à mesure ça s'est un petit peu transformé, ouais c'est ça, un peu au début des années 2010, parce qu'on a même Cancellara qui l'a gagné une année, fin des années 2010. Voilà, Rebellin avait inscrit son nom au palmarès. Enfin voilà, j'en passe, je vais pas tout vous citer, mais après c'est sûr qu'on a eu plus du Contador, du Quintana, du Roglic et du Pogacar. Eh bah, bravo Titien, victoire d'une courte tête sur ce quiz.
Bien joué à toi.
C'était serré.
Oui, c'était serré. Bravo en tout cas. Bon, on va enchaîner pour rentrer dans le vif du sujet de ce Tirreno Adriatico 2024. Alors, je vais dans un premier temps vous présenter rapidement le parcours. Alors là, c'est une course qui va commencer le lundi 5. Oui, c'est ça, lundi 5 mars. par un contre-la-montre individuel de 10 km, tout plat, c'est un aller-retour le long de la mer. Donc là, c'est vraiment pour les purs rouleurs. Et je pense que déjà, il y aura quelques écarts entre les candidats à la victoire finale. Après, on enchaîne avec deux, voire trois. Même trois plutôt étapes pour les sprinteurs, encore que la quatrième sera peut-être pour les baroudeurs avec un col situé en début d'étape, mais là on devrait avoir de belles explications. Il y a un gros plateau de sprinteurs, notamment avec des gars qui ont déjà brillé pas mal depuis le début de saison, et ils devraient vite s'affronter avec des armadas là pour canasser la course. Les candidats à la victoire finale, au général, ne devraient se découvrir que sur la cinquième étape, alors qu'il y a une étape, on n'est pas sur de la haute montagne, mais on est sur une étape courte, moins de 150 km, avec déjà le premier col où on va passer au-dessus des 1000 mètres d'altitude, 12 km d'ascension à 6% de moyenne, et le sommet qui est situé à 24 km de l'arrivée. Alors après, il y a une longue redescente, et un faux plat pour arriver, mais on verra déjà là qui sont les hommes en forme et qui est déjà à côté de la plaque. Mais c'est surtout le lendemain sur l'étape reine, et vraiment là une étape de haute montagne avec une arrivée au Monte Petrano après 180 km de course, où là on a un véritable col hein, de 10 km à 8%, donc sur des pentes très raides, où la grande explication devrait avoir lieu. Alors avant, il y aura quelques bosses, mais on n'est pas non plus sur un enchaînement de cols, on est plus sur presque sur une course de côte où le général devrait vraisemblablement se dessiner, sauf si les écarts étaient trop importants avant. Et tout ça avant de terminer avec une nouvelle étape pour sprinter à San Benedetto del Tronto, où la course des deux mers se terminera le long de l'Adriatique. Voilà rapidement pour le parcours, messieurs, un avis sur cette semaine de course italienne.
Bof. Non, mais j'ai pas mieux à dire en fait. Je trouve que Tirreno nous a habitués à mieux. C'est très stéréotypé comme tracé. T'as le chrono, t'as les étapes pour sprinter. T'as l'étape où tout va se jouer. Deux choses, j'aurais inversé l'étape 5 et l'étape 6. En fait, du coup, il va rien se passer sur l'étape 5. C'est dommage parce qu'elle peut prêter au mouvement avec ce long col et puis ensuite cette redescente et cette remontée, parce que tout le monde va vouloir en garder, parce que voilà, tout va se passer dans l'étape 6. Alors que t'aurais mis l'étape 6 avant, bah, les écarts, ils seraient faits. Et au moins, t'aurais pris des risques le lendemain dans une étape un peu plus ouverte. Là, bah, malheureusement, j'ai peur que l'ascension finale de l'étape 6 tue un peu les tentatives de velléité de l'étape qui la précède. Deuxième chose, normalement Tirreno, il y a toujours une magnifique étape de mur avec des pentes à 20%, etc. Je la vois nulle part cette année. Donc je suis assez déçu parce que je trouve que ça fait partie de l'identité de Tirreno, et on a toujours des magnifiques étapes sur ce genre de profil, et bah tu vois, on parlait de Nibali qui avait gagné en 2013, tout s'était joué sur effectivement une étape avec plein de petits murs. Bah là on l'aura pas cette année, donc non, je trouve le parcours assez plat, enfin assez stéréotypé en fait. Donc par exemple, il me hype beaucoup moins que celui de Paris-Nice. Donc écoute, après l'année dernière, je l'aimais beaucoup, le parcours de Tirreno, et je trouve qu'on n'a pas eu une super course, donc ça se trouve cette année, ce sera la course du siècle. On ne sait jamais, les coureurs feront la course.
Ouais, pas grand-chose à ajouter. Je suis d'accord sur l'inversement entre l'étape 5 et 6, qui du coup, en fait, tiens, l'a déjà très bien dit, l'étape 5, bah, on va rien avoir, alors que si ça avait été inversé, bah, cette étape 5 aurait été plus propice à des attaques et peut-être des barous solitaires ou à plusieurs pour essayer d'aller récupérer sa place au général. Mais voilà, on sait déjà sur quelle étape la course va se jouer.
Et puis comme on sait déjà qui va gagner, oui. Et ben voilà, hein, c'est plié. Messieurs, votre favori pour cette édition de Tirreno Adriatico. Je crois qu'on
a le même.
Je vous demande, mais on a mis tous les trois le même. C'est quelqu'un doit vraiment se dégager et être au-dessus du lot sur le papier. Hein.
Oui, tu dois sûrement parler de Woodpulse.
À peu près, ouais. à peu
Non,
près.
bah ouais, comment ne pas en parler? Vingegaard qui fait un début de saison comme l'année dernière, hein, stratosphérique. Qu'est-ce qu'on a à dire? Voilà, bah Vingegaard, il s'est aligné sur une course, il a gagné trois étapes, le général, le classement par points, le classement de la montagne. Voilà son palmarès pour l'instant cette saison. Il arrive sur Tirreno, bah voilà, il est ultra favori. Alors certes, il y a des beaux noms à côté. Il y a du Adam Yates, il y a par exemple Goggenhart qui sera là aussi, Ben O'Connor, Martinez, Hindley, etc. Mais voilà, enfin, c'est trop loin du niveau de Vingegaard. Cette étape justement, avec cette l'étape 6, avec cette montée, cette dernière montée, bah voilà, on sait comment ça va se dérouler, hein. Si Vingegaard applique son rythme, personne va pouvoir le suivre, et s'il accélère, ça va être très très compliqué. Et puis aussi Vingegaard, excellent rouleur, il est dans la bonne équipe, donc non, pour moi, enfin, je pense qu'on est d'accord pour dire que la victoire, sauf drame, ne peut pas lui échapper.
Voilà, bah rien de plus à dire en fait, c'est le meilleur coureur de course par étape actuellement. Il a jamais gagné Tirreno encore, non? Ouais, il a jamais gagné
Non,
Tirreno,
je
donc
crois pas. Non, parce qu'on a vu dans le quiz tout à l'heure qu'il n'y a qu'un Danois qui
oui,
a gagné. Eh oui.
effectivement, donc non mais en 2000 en 2022, il était
Bientôt
derrière
deux.
Pogacar, donc
Ouais,
non, bah c'est
c'est
le grand
ça.
favori et en plus bah, voilà, on l'a vu même sur au Gran Camino là dans les étapes où on s'attendait pas à ce qu'il attaque, il attaque quand même, il détruit la concurrence donc et pourtant il y avait quand même une petite concurrence sur cette course, donc bah, c'est forcément le grand favori. En plus, voilà, au-delà de bien grimper, je trouve que c'est un excellent descendeur. C'est quelqu'un qui est assez technique finalement, et ce que je pensais pas en fait il y a quelques années, mais je trouve très agile sur le vélo, très intelligent. Donc, et puis la puissance qu'il dégage dans les côtes, voilà. C'est pas sur le premier chrono, même s'il ira peut-être pas le gagner le premier chrono. En tout cas, je pense qu'il sera peut-être devant tous les autres favoris au
Ouais,
classement
il sera
général.
pas
Donc,
loin,
il
ouais.
sera déjà en tête. Ouais, je vois bien contrôler pour pouvoir mettre sa mine décisive là dans l'étape 6, dans la montée finale, et aller gagner tranquillement, peut-être même les doigts dans le nez, ce Tirreno Adriatico. Enfin, sauf incident, hein, je vois pas, même s'il y aura du costaud, je vois aucun coureur capable de le concurrencer tellement il est fort. Donc Jonas Vingegaard, énormissime favori à ce Paris-Nice en l'absence des autres Pogacar, Roglic ou Evenepoel.
Ouais, bah je suis d'accord avec vous les gars. Je pense vraiment qu'il va éclater tout le monde sur l'étape de montagne là, qui arrive au sommet. Je pense qu'il va vraiment mettre un point d'honneur à montrer qu'il y aura pas photo. Il a une belle équipe autour de lui, hein, quand même, avec Valter, avec Vechtebroeks, avec Bentelet, Robert Gesink et Kreuzweik également, et puis Dylan Van Baarle là pour citer tout le monde. Donc on est quand même avec une grosse armada autour de lui, et ouais, clairement, là il est sur un de ses premiers objectifs de la saison, hein. De toute façon, il y a Tirreno, après il y aura le Tour du Pays Basque et le Dauphiné qui doivent l'emmener au Tour de France et vers un troisième succès consécutif. Et clairement, là, voilà, en l'absence des coureurs qui peuvent le concurrencer, je vois pas comment, enfin voilà, sauf malchance, je vois pas comment est-ce qu'il peut ne pas gagner. En tout cas, à la pédale, il semble tellement au-dessus de tout le monde que ça semble impossible. C'est même impossible de donner un autre favori. Alors, est-ce qu'on a quand même trouvé des deux étoiles, malgré ça?
Oui, on en a trouvé. On a trouvé. Moi, en deux étoiles, j'ai choisi plus une équipe parce que je savais pas qui prendre. J'ai pris la Bora. Je m'explique parce que bah il y a quand même des coureurs qui ont un bon potentiel. Voilà, il y a Daniel Felipe Martinez qu'on a vu en ce début de saison. Je trouve plutôt en jambes. Il y a Jay Hindley, donc dont j'ai parlé en début de saison et j'ai dit que voilà Jay Hindley, ça allait être potentiellement sa saison. Voilà, c'est une équipe qui est quand même une grosse équipe. Voilà, il y a du monde pour être là. Voilà, s'il est dans une bonne semaine, bah on va se mettre à son service. Il y a Lennart Kamna qui sera là aussi pour jouer le rôle de lieutenant. Donc non, c'est une équipe qui pour moi doit être sur le podium de ce Tirreno. Même s'il y a beaucoup d'équipes aussi à côté qui peuvent y prétendre, mais je pense que la Bora a quand même l'effectif et les coureurs pour être sur le podium. Donc pour moi, s'ils n'y sont pas, ça sera une déception, clairement. Et puis oui, Inley, ça roule l'école. Enfin, c'est costaud, hein, on l'a vu sur le Tour de France. Donc voilà, il y a un mec à suivre, hein, il y a un mec à target, ça sera Vingegaard, mais comme il sera tellement à des années-lumière de tout le monde, bah après ça va se battre derrière. Et je pense que dans une bataille pour le podium, bah, je pense que la Bora et notamment Hindley peut, bah ils ont leur mot à dire et pour moi ils vont faire une belle deuxième place ou au moins un bon podium. En tout cas, je l'espère.
Moi, je suis d'accord avec toi sur la Bora, mais sur Jay Hindley, malheureusement, je trouve que le parcours, il est pas très très montagneux. Il aurait fallu une grosse étape de montagne pour qu'il s'exprime. Moi, tu vois, je pense plus à un Daniel Martinez qui est dans la start list, il me semble, sur un
Ouais.
parcours comme ça, qui pourra limiter sur le contre-la-montre, qui est quand même un assez bon rouleur, et qui ensuite, voilà, bah, sur ses qualités qu'on a vues là autour d'Algarve de puncher grimpeur. Ben voilà, pouvoir sur une ascension sèche, enfin pas rivaliser avec Vingegaard, mais en tout cas peut-être être le un des meilleurs des autres derrière lui. Donc effectivement, et puis ben voilà, Hindley, comme tu l'as dit, Kemna, voilà, ils sont armés, mais ils sont pas armés malheureusement pour. Enfin, je trouve que la course va être faite de manière trop limpide pour qu'ils puissent jouer quoi que ce soit. Et du coup, moi, je miserais plutôt sur le punch de Martinez pour aller chercher le meilleur résultat possible sur la course de côte qui aura lieu en fin de Tirreno. Mais effectivement, ils ont les cartes en tout cas pour aller mettre au moins un coureur sur le podium. Ça, je te rejoins.
Ouais, pareil, moi je suis un peu plus emballé par Martinez, notamment avec son excellent tour d'Algarve. Alors c'est, je crois qu'il va découvrir Tirreno Adriatico, mais bon, c'est pas forcément gênant de toute façon pour être performant. En tout cas, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il enchaîne après l'Algarve où clairement il a montré que dans cette équipe Bora, il faudra bien évidemment compter sur lui. Il a comme objectif le Giro, donc bah Tirreno, c'est une première étape de bah, voilà de course en Italie. Bah pareil, je pense que voilà le podium, à mon avis, il sera dessus ou il en sera pas loin. Voilà, rien de plus à rajouter par rapport à ce que vous avez dit sur ce coureur. Et oui, Hindley, effectivement, peut-être un peu un profil qui correspond pas forcément. Je sais pas, je pense qu'il est quand même plus à l'aise sur les grands tours, Hindley, que sur les courses d'une semaine. Donc
Oui.
moi, c'est pas vraiment là où j'attends. Après, ça peut être un allié. En tout cas, c'est un très bon allié à Martinez.
Ils ont l'équipe pour être sur le podium de toute façon.
Ouais, voilà, ils ont l'équipe pour mettre Martinez sur le podium, en tout cas. Donc dans ce sens-là, ouais, je pense que la Bora, de toute façon, maintenant, hein, avec les arrivées de Roglic et de Martinez, la Bora, il faut compter avec eux dès qu'il y a une grande course par étape. Hein, donc c'est clair qu'il va falloir s'y habituer. Titien, de ton côté, quel outsider avais-tu choisi?
Eh ben moi j'ai choisi de parler de Juan Ayuso. C'est un coureur que j'aime beaucoup, un jeune hyper talentueux, faut le rappeler. Je pense qu'il a fait un podium de Vuelta il y a deux, même pas, il y a un an et demi, alors qu'il avait que 19 ans, ouais, c'est ça. Donc là il en a 21, donc il est encore très très jeune. Voilà, c'est un crack, c'est vraiment un crack, Juan Ayuso. Malheureusement l'année dernière il a été freiné par des blessures qui ont retardé son début de saison. Voilà, il a eu plusieurs chutes, donc il fait malgré tout une bonne saison. Il va chercher des victoires sur pas mal de courses World Tour. Il fait quatrième de la Vuelta, donc sa peut-être progression a été un peu ralentie l'année dernière, mais voilà, cette année il démarre la saison en pleine possession de ses moyens. Voilà, sur ses deux premières courses là, alors il y a eu seulement le chrono du Tour d'Andalousie, mais il fait un podium sur ce chrono qui était court, mais bon voilà, c'est pas forcément très significatif. Mais ensuite sur les boucles de Romardèche là, il a été clairement impressionnant. Même enfin voilà, c'est plus un grimpeur qu'un puncher, et pourtant il a montré des capacités de punch, de résistance, et surtout même au sprint. Voilà, il a montré qu'après une course difficile, c'était le plus frais, parce que je suis pas forcément sûr que c'était le plus rapide au sprint là face à des Ezequiel Moseux ou Romain Grégoire. Mais donc voilà, il m'a l'air très très fort. pour moi, pas de quoi concurrencer Jonas Vingegaard malgré tout. Quoique, enfin, voilà, en tout cas, il faudra voir s'il arrive à l'accrocher. Mais voilà, il est bon en chrono, Juan Ayuso, même si c'est pas un pur rouleur, il a déjà gagné des chronos. Bah, les dernières, il a quand même gagné 2 chronos World Tour au Romandie autour de Suisse. Celui de Tirreno, il est un petit peu trop plat pour lui, je pense, mais du coup, il pourra quand même limiter les dégâts. Et puis voilà, dans l'étape de montagne, à mon avis, ce sera peut-être le meilleur des autres derrière Jonas Vingegaard. Donc pour moi, voilà, c'est sa saison. À Juan Ayuso, c'est la saison où après sa super Vuelta il y a 2 ans, je l'attends pour enfin confirmer et montrer tout le potentiel qu'il a. Donc voilà, il a pour la première fois cette occasion sur Tirreno Adriatico de briller. Alors apparemment, ils vont aussi venir avec un Adam Yates, mais à voir, parce que Adam Yates, quand il est quand même parti en commotion cérébrale sur l'UAE Tour, donc pas sûr que dans tous les cas, même si ça va mieux, il soit en pleine possession de ses moyens. Donc pour moi, Juan Ayuso, ce sera vraiment, vu ce qu'il a montré, le leader de ce Tirreno. Et bah déjà, s'il fait pas podium, je serais très déçu. Donc non, moi j'y crois, je crois à cette deuxième place pour Juan Ayuso. Mieux, ce sera difficile, mais en tout cas voilà, il doit montrer aujourd'hui qu'il est capable de lutter au haut niveau et qu'il est vraiment un des tout meilleurs grimpeurs et coureurs de course par étape du peloton. Donc ouais, pour moi le principal outsider de Jonas Vingegaard, si on peut en citer un, ce sera Juan Ayuso.
Ah non, je suis complètement d'accord, je te rejoins à 100% là-dessus. C'est bien que, enfin, ça, de toute façon, c'est sûr qu'il sera leader de l'équipe, au vu de ce qui est arrivé malheureusement à Adam Yates. Et puis, voilà, Ayuso, il est en confiance, il a un bon début de saison aussi, il est dans une bonne équipe également, ça roule bien, ça grappe bien, ça a le punch, il est jeune, voilà, il y a tous les feux qui sont ouverts pour lui, pour réaliser un super Tirreno. Donc, non, Juan Ayuso, franchement, c'est ouais, je pense que c'est facilement enfin, j'espère facilement il sera sur le podium. Il est très très fort, et je pense, tu l'as dit, Titien, ça va être une très bonne année pour lui s'il continue sur ces bases là et c'est fou parce qu'il a que 21 ans, et franchement toutes les plus belles choses en fait vont commencer à lui arriver, et ça va être vraiment super intéressant et super chouette de le voir arriver maintenant dans ses luttes pour des victoires sur des courses par étapes ou peut-être des grands tours aussi.
Je l'ai trouvé très fort sur le week-end en Ardèche et dans la Drôme là. Il m'a, enfin, notamment sur son sprint là face à Romain Grégoire, et on voit sa joie, sa rage quand il gagne là. C'était enfin voilà, tu sentais vraiment qu'il était hyper content de ce qu'il avait fait. Je l'attendais pas si rapide au sprint. Il a très très bien manœuvré dans le final. En plus, il a emmené le sprint. Il était en tête. C'était pas forcément la position la plus confortable. Il s'est pas affolé. Il a ralenti d'allure. Et pour moi, c'est vraiment un signe de maîtrise et qu'il avait confiance en ce qu'il était capable de faire. Et clairement, ouais, je pense qu'il va faire un grand Tirreno. On va le voir à l'avant, c'est sûr, hein, sur ces deux étapes montagneuses. Voilà. Après, c'est aussi peut-être une des dernières fois où il sera leader. Alors avant un moment, parce qu'après, ce sera l'objectif Tour de France où il sera là pour accompagner Pogacar, hein, même si voilà, Pogacar sort du Giro et tout ça, mais en tout cas, il sera pas forcément leader unique. Là, je pense qu'il aura vraiment aussi à cœur de montrer qu'il peut essayer de rivaliser avec Vingegaard. Je pense que ça va être très très difficile, mais à mon avis, derrière le Danois, il va pas être loin, c'est sûr. Et voilà. Et pour rien vous cacher, moi, avant qu'on fasse l'émission, mes deux outsiders, je m'étais mis sur mon bout de papier, je vais parler soit d'Ayuso, soit de Martinez. Donc voilà, on a parlé des deux, donc on va pouvoir directement, si c'est bon pour vous, enchaîner avec les nos une étoile, nos petites surprises, nos pépites. Titien, qui nous as-tu réservé en pépite, en une étoile, en coureur qui pourrait vraiment surprendre son monde peut-être sur cette course italienne?
Ouais, voilà, il y a beaucoup de gros noms, donc j'avais pas, enfin, j'ai du mal à trouver un, et je suis plutôt parti sur quelqu'un, voilà, sur un coureur que j'aime bien. Et puis, en voyant le parcours, je me suis dit, pourquoi pas, voilà, c'est un jeune coureur, c'est Magnus Sheffield, le coureur d'Ineos. Pourquoi Magnus Sheffield? Bah, alors, déjà, parce que, mine de rien, même si le contre-la-montre de Tirreno, il est court, sur un parcours comme ça, j'ai l'impression qu'il va quand même pouvoir faire des différences qui peuvent être importantes sur la course, si finalement cette course se joue uniquement ensuite sur la course de côte dans l'avant-dernière étape. Et du coup, Sheffield, bah, c'est un excellent roller contre la montre, hein. Faut rappeler qu'il a encore que 21 ans, et pourtant, bah, voilà, c'est quasi le seul qui a pu, enfin, à distance, rivaliser avec Remco Evenepoel sur le chrono du Tour d'Algarve. C'est une bête à rouler, c'est un mec, moi j'adore ce style un peu bûcheron là, t'as l'impression qu'il a un braquet toujours 10 fois trop gros, et du coup, bah, voilà, bah, déjà, je pense que, voilà, je pense que Magnus Sheffield peut remporter ce contre-la-montre d'ouverture. En tout cas, pour moi, ce sera un des très 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 gros favoris sur un contre-la-montre tout plat. L'année dernière, il avait fait 3e, je crois, derrière Ganna et Kemna. Et cette année, voilà, il arrive en grande forme. Il a déjà fait un super chrono, donc je le vois, pourquoi pas prendre ce maillot bleu de leader de Tirreno. Forcément, derrière, ce sera impossible de gagner parce que c'est pas un pur grimpeur, mais c'est un coureur que je pense qu'il, voilà, il se construit encore. Il a fait des beaux résultats l'année dernière. Il était pas mal sur le début du Tour de Suisse. Il a déjà fait quelques belles ascensions autour de Grande-Bretagne, même si c'était pas des grandes montées dans l'étape difficile que remporte Carlos Rodriguez. C'était un des plus forts aussi. Donc voilà, je pense qu'il peut nous surprendre et que il peut limiter la casse dans ces deux étapes difficiles, et pourquoi pas aller accrocher au final pourquoi pas un top 5 au classement général, ce serait un premier super résultat. Alors encore une fois, c'est à une étoile, donc c'est un petit pari, mais voilà, j'ai envie de. J'ai vu son nom et je me suis dit pourquoi pas, c'est un coureur que j'aime bien. Donc allez, un petit top 5 au classement général pour Magnus Sheffield et une victoire sur la première étape.
Alors ça, c'est osé le top 5, hein. Par contre, je te suis totalement sur la victoire dans la première étape. Je pense que
Je suis d'accord aussi.
je pense vraiment qu'il va la gagner. Mais ouais, mais ça c'est belle cote, osé, bravo.
C'est les coefficients, hein.
Ah ouais,
On les
c'est les
connaît, hein.
coefficients. Ça, on
Ça
sait,
passe
on se
rarement.
méfie. Maintenant, on le prend,
Si ça
on
passe.
l'écoute quand même attentivement. On l'écoute attentivement. Mais ouais. En tout cas, je pense que sur le chrono, vu ce qu'il a montré en Algarve, il peut clairement le remporter. C'est totalement
Oui.
dans son profil.
À moins
Donc,
que Vingegaard explose le
ouais,
chrono
dès le
inaugural
début. Mais en
direct,
fait,
voilà.
c'est peut-être le risque le plus grand.
Peut-être, peut-être.
Ce
Ah
sera
ouais.
même, ce sera même pas forcément Ganna. Ce sera peut-être Vingegaard,
Non.
ouais.
Ganna, on a vu de toute façon qu'il était un peu sur la peine. Après, il y
C'est
a
pas.
Kung aussi,
Je
hein,
trouve.
sur le chrono.
Ouais, mais.
Ouais,
Mais
mais
bon. C'est un chrono, en
j'y
tout cas,
crois moins
vraiment,
aussi.
c'est des grandes lignes droites, hein. C'est pour pur spécialiste. C'est un aller-retour en ligne droite de
Bah oui.
13 km, hein.
Ouais.
Donc, lui qui aime bien envoyer sa braquasse, qui sera pas gêné par les virages pour le ralentir, je sais pas, je le vois gros comme une maison, là.
Eh ben on va
Camembert.
suivre ça avec attention. Poppy, quelle est ton une étoile, ta surprise, un peu moins surprise, je crois, de ton côté.
Oui,
Plus
un petit
une
peu.
attente, une espérance.
On verra ce que donnera Ben O'Connor sur cette course. Alors, Ben O'Connor qui sort d'un très bon Nuage Tour. Malheureusement, bon, la fin, c'est un peu mal goupillé pour lui, mais je pense qu'il avait quand même les jambes, même s'il finit dans le rude. Mais sinon, pour
C'est
revenir
pas
à
évident de manœuvrer hein, sur cette
Oui,
fin
puis
du
surtout,
tour, ça c'est.
quand t'apprends que tout le monde lâche, je pense que la situation est un peu compliquée, quoi. Je pense qu'il s'y attendait pas. Donc, non, 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 mais en tout cas, il a montré des belles choses. Il a montré qu'il avait les bonnes jambes. Alors, ce chrono d'entrée, je pense que ça va lui faire un petit peu mal par rapport aux favoris. Mais justement, derrière, ça laisse de la place pour bah, s'exprimer dans les étapes. Il a les jambes. C'est un coureur qui a déjà gagné des étapes sur le Tour de France. Il a déjà gagné une étape sur le Giro aussi. Donc voilà, hein, ça lui fait pas peur d'aller à l'avant. Je pense quand même que les favoris vont se régler l'étape 6, mais sur cette étape 5, il y a de quoi faire pour Ben O'Connor, voilà, passer cette bosse, cette montée en tête pour aller potentiellement finir tout seul à l'avant. En tout cas, il a les bonnes jambes. On l'a vu, j'en parlais à Titien tout à l'heure, hein, mais quand il remonte sur Bilbao dans l'UAE Tour avec une facilité à un moment donné, c'était assez déconcertant. Mais voilà, Ben O'Connor, bah, j'ai envie de voir une continuité. Il revient un petit peu, genre pas de loin, mais voilà, il revient quand même un petit peu. Il avait quand même une saison sans. Mais voilà, j'aimerais bien que ça continue comme ça pour Ben O'Connor et que ce soit un coureur qu'on puisse retrouver à l'avant sur des courses et essayer d'aller jouer le général. Mais voilà, j'aimerais bien que Ben O'Connor continue sur sa belle lignée du début de saison où il est quand même néanmoins assez en forme.
Ouais, non, bah écoute, je sais pas parce que tu vois, je l'avais trouvé très fort là sur le Tour de Murcie qui gagne, j'avais trouvé, enfin, je m'attendais pas à ce qu'il perde en fait cette tour, et puis finalement face à une adversité qui était quand même bien moindre que celle qu'il va y avoir sur Tirreno, bah il a cédé. Alors c'est pas facile de courir avec le statut de patron. Pour autant, voilà, s'il avait été vraiment plus fort que tout le monde, il aurait mis une attaque et personne n'aurait suivi. Donc, je sais pas. Je pense qu'effectivement, il sera là. Il y a quand même du beau monde. Après, il s'est limité en chrono, donc à voir. Peut-être ce qu'il avantage aussi, encore une fois, c'est que voilà, il y a pas finalement d'étape avec enchaînement de murs où j'ai pas l'impression que ce soit vraiment pour Ben O'Connor. Là, une ascension sèche comme ça en 10 km, c'est quand même à croire qu'il y a un bon punch. Donc, faudra voir comment il sortira du chrono, mais c'est sûr que s'il sort bien placé, ce sera un candidat naturel pour le podium. Donc, de toute façon, tous les AG2R, enfin tous les Décathlon AG2R sont en feu. Donc, on va parier Ben O'Connor, mais oui, il fait partie encore une fois de ces 3, 4, 5 mecs là qui peuvent briguer les deuxième et troisième places derrière Vingegaard. Donc, ouais, je te suis, pourquoi pas.
En tout cas, c'est un coureur qui entame très très fort sa saison 2024. C'est bien pour lui parce que je trouve qu'en 2023, on l'a pas eu dans une super super dynamique. Même en 2022, hein, c'était pas, enfin voilà, c'était pas aussi flamboyant qu'on pouvait l'espérer. Jusqu'au Dauphiné, c'était top. Et puis après, il a déçu sur le Tour et on avait un peu l'impression qu'il s'en était jamais forcément remis. Donc là, c'est un renouveau pour Ben O'Connor. Donc c'est cool. Après, je pense quand même qu'il va être un petit peu juste, hein, sur l'UAE Tour. C'était pas le plateau qu'on aura à Tirreno. Il n'était pas une jambe au-dessus de tout le monde non plus, hein. L'étape qui gagne, c'est un super coup des AG2R Décathlon avec notamment Valentin Paré-Peintre qui l'a mis sur orbite. Mais voilà, donc, il sera là, il sera pas très loin, mais je pense vraiment que ouais, s'il fait dans les 5 premiers, c'est une belle perf
Oui.
déjà. Ouais. De mon côté, messieurs, j'avais envie de parler d'un coureur français qu'on a vu un petit peu déjà. Il a déjà pas mal de courses depuis le début de saison. On l'annonce lui aussi à 22 ans comme un grand espoir du cyclisme tricolore. C'est Kevin Vauclin. Alors, je voulais parler de Kevin Vauclin. Je le vois pas du tout aller accrocher un podium ou un top 5. Mais en fait, moi, j'attends vraiment de lui. Et quand on regarde un petit peu les courses sur ces qu'il a réalisées sur ces 2 dernières années, c'est que sur les courses d'une semaine, notamment françaises, il est toujours performant, il est toujours bien placé, il gagne des étapes, parfois des classements généraux, des podiums. Mais dès qu'on arrive au niveau World Tour, il y a un cap qui n'a pas encore été franchi. Et je pense que cette saison 2024, elle va être importante pour Vauclin à ce niveau-là. Il va participer pour la première fois au Tour de France cet été. Je pense qu'il doit vraiment prendre la caisse sur les courses en le tour. Le niveau, forcément, est un cran supérieur. Et plus que, voilà, moi j'attends vraiment de Vauclin qui soit en lutte dans les étapes les plus dures avec les meilleurs. Et puis ouais, je pense que ce serait une belle perf de terminer dans le top 10 sur Tirreno. C'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire encore sur les courses au plus haut niveau. Donc voilà, plus qu'une potentielle surprise, c'est plus une attente, on va dire, que j'ai par rapport à ce coureur, pardon.
Ouais, non, mais clairement, enfin, à voir ce qu'il peut faire, mais vu le début de saison qu'il a fait, moi, je l'attends aussi au tournant. C'est un parcours qui lui convient bien, lui, le rouleur puncher grimpeur, on va dire. Donc, écoute, assez curieux de voir ce que peut faire Kevin Vauclin. En tout cas, voilà, c'est Ouais, c'est un parfait profil, je trouve, pour les courses d'une semaine, avec ses capacités à bien rouler et avec sa pointe de vitesse et à être bon en montagne. Donc l'année dernière, bah, à la même époque, il avait fait Paris-Nice. Il avait été très bon sur la première moitié de Paris-Nice. Il avait même d'ailleurs fini devant Vingegaard, par exemple, sur la première arrivée en montée. Donc ça prouve que voilà, sur une course World Tour, il peut avoir du potentiel. Après, il avait chuté, il me semble, et il avait mal fini son Paris-Nice. Et puis après, le reste de l'année, c'était un peu moins bien passé. Mais là, il a quand même bien démarré la saison. J'ai trouvé, voilà, enfin, il tape quand même Pedersen à Bessèges, hein, donc sur le chrono. Donc franchement, il est très très fort. Ouais, c'est clairement une des attractions, mais pour moi, c'est facilement un coureur qui sur son niveau là peut finir dans un top 7-8. C'est bien possible. En tout cas, ça pourrait être notre probablement d'ailleurs peut-être la meilleure carte française pour le classement général. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression.
Oui, je pense.
Oui, clairement, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, non, mais ça va être intéressant de voir ce que peut proposer Kevin Vauclin en vue de son excellent début de saison. Le parcours s'y prête bien. Voilà, j'ai envie de dire, impressionne-nous, Kevin, montre-nous de quoi tu es capable. Mais tout est là, on va dire, pour qu'il fasse en fait une belle course, en tout cas qu'il puisse un petit peu surprendre les autres, peut-être se surprendre lui-même, qui sait. Mais oui, il a les capacités, il a les qualités pour en tout cas jouer quelque chose sur ce Tirreno cette année.
Très bien. Bon, messieurs, avant de se quitter, il faut quand même qu'on parle des sprinteurs, et ils ont plus d'étapes que sur Paris-Nice, sur ce Tirreno. Donc, c'est peut-être aussi ce qui explique le plateau XXL, avec des noms comme Philipsen, Cavendish, Milan, Baos, Merlire, Van Nuden également. Alors, un nom comme ça à ressortir de cette liste. Comment est-ce que vous voyez, vous, le match des sprinteurs?
Eh ben écoute, vas-y, vas-y.
Non, mais j'allais dire intéressant, mais tu vois, sur l'UAE, j'étais aussi de me dire que ça allait être intéressant, et au final, on a eu une surdomination de Team Merlier. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre, même si le plateau est quand même super cool, super chouette. Voilà, il y a du monde qui va être là, ça va se batailler fort. Est-ce qu'on aura une surdomination d'un homme, ou est-ce qu'on aura une victoire, enfin une étape, une victoire différente à chaque fois? Je ne sais pas, mais voilà, en fait, pour moi, les sprints vont dépendre de la forme d'un seul homme dont on parlera un petit peu. Je pense que c'est toi, Tiens, qui l'a choisi, mais on en parlera. Enfin, tu pourras en reparler après.
Même maintenant.
Ouais,
Même
ben bah
maintenant.
écoute, non, mais pour moi, j'ai hâte parce qu'il y a quand même un sprinter qui domine hein, le début de saison. C'est Tim Merlier que je trouve quand même très très impressionnant, le Belge. Hein, faut se souvenir de son sprint là, c'est quoi sur la Tour là où il lance à 400 mètres de la ligne avec Brian Cooker qui croit qu'il l'a battu et finalement non à l'arrivée là sur l'UAE Tour qui est quand même, on peut le dire, hein, un championnat du monde des sprinteurs. Limite, j'ai l'impression que c'est la course des sprinteurs de l'année. Avec le, enfin,
Il est
là on voit les plus
impressionnant.
gros trains. Enfin, tu vois que la seule étape qui gagne pas là, c'est parce que Coy est bien abrité par les barrières et qu'en plus lui, il a
Et
une
encore,
crevaison
il
lente.
remonte et ça se joue à un boyau,
Ouais,
quoi.
alors qu'il est crevé de l'arrière en plus, donc ou de
Ah oui,
l'avant,
non,
je
mais
sais
c'est
plus. Donc
fou.
non, il est impressionnant. Il a un jump et je trouve que voilà, il a pas vraiment de train. Il a un ou deux mecs pour lui. Il reste caché jusque voilà, il reste dans la boule en fait et il sort de l'arrière comme le faisait Marcel Kittel là, des grandes années où c'était un sprinter qui souvent restait caché et surgissait de derrière. Et ben Tim Merlier, il fait un peu la même chose depuis le début de saison. Enfin, je le trouve très très fort et il symbolise bien d'ailleurs l'excellent début de saison de l'équipe Soudal Quick-Step. Donc j'ai hâte de le voir face à Jasper Philipsen qui est quand même, bah, bon, qui vient de reprendre la saison, voilà, sur les deux classiques belges. Donc on l'a pas forcément encore vu, mais ça va être intéressant de voir s'il est toujours aussi dominant que l'an dernier sur les sprints, sachant que il aura pas Mathieu Van Der Poel cette fois-ci pour l'emmener, donc ça rééquilibre peut-être un petit peu les débats avec Tim Merlier. En tout cas, j'ai hâte de voir si ben voilà, un duel entre les deux Belges qui me semblent les deux grands favoris quand même des sprints au vu à la fois de leur pédigré et puis du début de saison. Donc je pense que voilà, il y a trois sprints programmés, ça devrait être assez intéressant.
Ouais, ça fait un beau plateau. Et c'est vrai que le duel Philipsen-Merlier est intéressant sur le papier. Et c'est un petit peu celui qui dominait les sprints l'année dernière. Et puis Merlier, celui, c'est un petit peu plus ancien, mais je pense clairement que cette année, c'est peut-être un duel qu'on verra aussi tout au long de la saison. Voilà, je sais pas si vous aviez d'autres noms à rajouter comme ça, ou de coureurs qui animeraient la course juste avant qu'on mette fin à cette preview.
Bah, peut-être Jonathan Milan, à la limite, qui avait été très fort sur le Giro l'an passé, qui en ce début de saison, là, il a juste gagné une étape sur le Tour de Valence, là. Mais ouais, pourquoi pas Joe Milan qui peut entrer dans ce débat-là. Je pense qu'il est quand même un cran derrière Philipson et Merlier, mais en tout cas, voilà, c'est pas un nom à oublier. Il faut pas non plus mettre de côté la saison qu'il nous a fait juste avant. Donc voilà, peut-être qu'il trouvera un peu plus ses marques sur les routes italiennes qui lui ont plutôt réussi. Voilà, on peut espérer avoir un Joe Milan qui peut aller nous en chercher une petite. Moi,
Ouais,
j'y
peut-être
crois.
un petit peu juste,
Ben, j'ai envie d'y croire,
peut-être
tu vois.
par rapport à Philipsen et Merlier, mais ouais, à voir.
Il se
Faudrait
passe
peut-être
bien, il est
que
capable de
l'étape soit un peu
remonter.
plus dure, en fait, ou enfin plus. Ouais, en tout cas, je pense que vraiment sur un sprint massif avec beaucoup d'équipes, beaucoup de sprinteurs, il est peut-être un petit peu plus juste.
Ouais, et puis moi, bah non, mais juste pour finir, j'ai bien envie de voir ce que peut donner un Romain Grégoire, par exemple, sur un parcours comme ça, qui est finalement pas si montagneux. Peut-être qu'il y a moyen d'aller faire un truc lui aussi. Voilà, j'ai vu qu'il est prévu sur la course, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut donner Romain Grégoire sur une ascension sèche? Alors, je me dis certainement pas d'aller rivaliser avec les tout meilleurs, mais voilà, sur 10 km de montée, est-ce que voilà, on n'est pas sur un enchaînement de cols, est-ce que ça peut pas donner quelque chose d'intéressant? Donc ça va être sympa à voir, à suivre. Après, il aura fallu estrader 2 jours avant, donc est-ce qu'il aura bien récupéré? Moi, je préfère qu'il tape le podium d'estrader et qu'on le voit pas sur Tirreno. Mais enfin voilà, en tout cas, ça peut être intéressant de le voir se tester un petit peu, de voir si voilà, sur de la moyenne montagne comme ça peut être un gars qui va rivaliser par la suite avec les tout meilleurs. Donc c'est ce que je vais suivre aussi, en plus des sprinteurs et des favoris dont on a parlé.
Très bien, eh ben messieurs, merci beaucoup pour cette preview très complète
Bah, merci
de
à toi.
Tirreno
Merci
Adriatico.
énormément.
On se retrouve bien sûr très très rapidement pour de nouvelles émissions, des débriefs, et après cette période des courses par étapes d'une semaine de début de saison, on rentrera dans les classiques, les monuments. Merci beaucoup, messieurs, une fois de plus, pensez à vous abonner, un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire, et allez regarder les articles de Matt et de Simon sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Pensez à vous alimenter la fringale sur Tirreno Adriatico comme sur n'importe quelle course. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.
Ciao les gars, bye bye.
Des bisous à tous. Allez, Romain Bardet.